C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Hawick, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 9:04, Radio London Time, the station with kicks on 266.
Si la loi anti-radio offshore britannique a porté un coup très dur aux stations maritimes, en les réduisant toutes au silence, elle n'a pas éteint définitivement le phénomène. Radio Oraki en Nouvelle-Zélande et Radio Veronica en Hollande sont toujours là. Ces deux survivantes montrent que ce moyen de faire de la radio reste possible. De fait, moins de 2 ans après l'extinction des radios britanniques, le phénomène renaît avec Radio North Sea International. Si le bateau de la nouvelle venue a été équipé en Hollande pour profiter de la passivité du gouvernement de ce pays, les programmes sont principalement en anglais. Et c'est bien sur le vide laissé par les stations britanniques que Radio North Sea compte pour s'imposer et conquérir un public. Le fait que toutes les radios offshore britanniques ont été remplacées par un seul programme, celui de Radio One, permet d'envisager quelques perspectives. D'ailleurs, à l'image de Swinging Radio England et Britain Radio, Radio North Sea International est lancé avec de gros moyens financiers. Preuve que tous les investisseurs n'ont pas été effarouchés par l'hostilité du monde politique. Toutefois, la radio sème le désordre sur son passage, avec des émetteurs très puissants et mal réglés. Radio Caroline, quant à elle, est entrée dans la légende. Et un an à peine après l'arrêt de ses deux programmes, Radio Andorre l'a fait renaître pour quelques émissions qui, sans nul doute, entretiennent le souvenir.
The England World Cup squad 1970 under the heading of Sir Alf Ramsey and back home. That's number 3 this week in Radio North Sea Top 30, and I'm sure we all wish them lots of success down there in Mexico. 7:05, we'll rebound to the year 1967 now. This one brings back a lot of memories for me. I hope it does for you too. The Doors and Light My Fire.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. Was to say to you, girl, we couldn't get much higher.
En Nouvelle-Zélande, la loi évolue. En septembre 1968, deux projets de loi sont examinés simultanément. Le premier vise à attribuer des licences de radiodiffusion à des entreprises privées. Le second projet est une sorte de Marine Broadcasting Offense Act visant à interdire les émissions de radio depuis la mer. Même si la New Zealand Broadcasting Company contesta certains aspects juridiques du premier texte, il fut adopté et à partir de novembre 1969, un appel à candidature fut lancé. Bien sûr, Radio Oraki constitua un dossier en même temps qu'elle adopta une nouvelle identité juridique. Le 24 mars 1970, Radio Oraki obtenait l'une des deux licences d'émission pour la région d'Auckland. Pour la première fois depuis la naissance du phénomène des radios maritimes, une station entrait dans la légalité et était autorisée à émettre depuis la terre. Radio Oraki a donc obtenu ce que les radios britanniques ne sont pas parvenues à obtenir malgré le nombre important de leurs auditeurs. Il était prévu que la station néo-zélandaise cesse ses émissions depuis la mer le 1er juin 1970 à 22h. 3 jours avant, tous les programmes furent réalisés depuis le bateau et de nombreux messages de sympathie émanant de stars de la pop furent diffusés. Elvis Presley, les Rolling Stones ou les Beatles saluaient le succès de Radio Oraki. Le Thierry 2 aurait dû faire une entrée triomphale dans le port d'Auckland. Malheureusement, aux premières heures du 2 juin, Rick Grant, un DJ très populaire de la station, passa par-dessus bord. Aidé d'un cargo danois, le Thierry 2 patrouilla sur zone, mais l'homme resta introuvable. Au lever du jour, 3 navires de la marine et plusieurs bateaux de pêche quadrillèrent la zone, mais les espoirs de retrouver Rick Grant vivant étaient de plus en plus minces. Vers midi, la météo étant devenue mauvaise, il fut décidé d'abandonner les recherches. C'est donc le deuil qui marqua la fin de l'aventure maritime de Radio Oraki et ses débuts en tant que radio légale. Voici les dernières minutes de la station depuis la mer, le 1er juin.
The Radio Oraki story is, to my mind, something that should be an example to New Zealanders in every field of just what vision, guts, stamina and ability can achieve.
One thing I do like to remember is the friends I made amongst the crew we had, and we had many, many people from various walks of life. and the friends we made on the barrier, the friends we made at Wongapara, and the friends we made at Shoal Bay. Altogether, it was an experience that I would never miss, but it was something that perhaps is one of the only things in the world today, the last of the pirate stations.
His Worship the Mayor of Auckland, Mr. Robinson.
L'arrivée de Radio North Sea International au large des côtes britanniques va modifier le rapport que ces entreprises flottantes entretenaient jusqu'à présent avec le monde politique. Depuis le début du phénomène des radios offshore en 1958, il n'y avait jamais eu de confrontation directe entre les radios et les gouvernements concernés. Bien sûr, les autorités des différents pays avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour compliquer l'existence de ces stations maritimes, l'aboutissement étant les différentes lois, dont le Marine Broadcasting Offence Act. Mais Radio North Sea International va inaugurer un nouveau type de rapport avec les autorités, plus direct et ouvertement conflictuel. C'est la conjonction de deux faits qui va instaurer cette nouvelle situation. D'une part, le gouvernement britannique va utiliser le brouillage contre la radio. Ce moyen de coercition n'avait plus été utilisé depuis la Seconde Guerre mondiale. D'autre part, fin mai, le parti travailliste au pouvoir annonce des élections législatives anticipées. Le scrutin est prévu pour le 18 juin. Le 1er juin, Radio North Sea annonce l'arrêt de ses émissions en allemand et dans la foulée, Edwin Bollier déclare que si le parti travailliste remporte les élections, la station cessera d'émettre. Cette déclaration va en fait induire un positionnement politique de la radio qui va aller assez loin. Le parti travailliste ne s'attendait sans doute pas à un retour du sujet des radios privées dans le débat politique. Radio One avait trouvé son public et jusqu'au retour de Radio North Sea International, il n'y avait plus une seule station maritime dans les eaux internationales aux abords de l'Angleterre. Quelques stations pirates terrestres se faisaient parfois entendre, mais elles étaient peu nombreuses, émettaient à faible puissance et souvent sporadiquement. Le gouvernement d'Harold Wilson a sans doute cru que le brouillage suffirait à neutraliser Radio North Sea International. Mais ceci eut en fait pour effet de la rendre encore plus visible et de raviver les frustrations engendrées par le Marine Broadcasting Offence Act. La station ne tarda pas à se transformer en une arme anti-parti travailliste. Rapidement, une première manifestation fut organisée à Londres par la Free Radio Association, toujours en activité. Elle mobilisa plus de 3000 personnes. Mais cette première démonstration fut surtout le coup d'envoi d'une campagne destinée à inviter ce sujet dans les élections. Le 13 juin à 0h30, les auditeurs à l'écoute de Radio North Sea International ont sans doute été surpris en entendant ceci.
Good evening, this is Carl Mitchell welcoming you to the new sound of Radio Caroline International.
Avait été conclu quelques jours plus tôt entre les responsables de Radio North Sea et Ronan O'Reilly. La station désirait clairement faire campagne contre le parti travailliste et ses dirigeants pensaient que le nom de Radio Caroline était resté dans les mémoires et qu'il serait bien plus porteur pour raviver le ressentiment contre le parti qui avait réussi à faire taire toutes les radios maritimes.
Good evening, this is Andy Archer. The unbelievable has happened. This is the return of Radio Caroline International.
There she was, just a walking down the street singing.
Ce qui se passa durant les jours suivants sur les ondes de Radio Caroline International est inédit dans l'histoire des médias britanniques. En période électorale, les médias, qu'ils soient publics ou privés, sont soumis à une règle d'équité et de neutralité dans les reportages ou les informations. Mais Radio North Sea, devenue Radio Caroline International, émet en dehors des eaux territoriales et de toute façon considérée comme illégale par le gouvernement britannique, ne se sent donc pas du tout tenue par cette neutralité. Les DJ incitent à voter conservateur et plus le scrutin se rapproche, plus cela devient un leitmotiv. Il y avait surtout un aspect de cette consultation que le gouvernement travailliste avait visiblement négligé. Cette élection était la première où l'âge légal pour voter était fixé à 18 ans. Or, quand on avait 18 ans en 1970, on en avait 15 en 1967, au moment où les radios offshore se sont tues à la suite d'une loi voulue et établie par un gouvernement et un premier ministre qui postulaient à sa réélection. La campagne antitravailliste ne se limita pas à l'antenne de Radio Nazi. La Free Radio Association va prendre une part importante dans l'organisation d'une petite campagne de terrain et d'autres manifestations ont lieu à Trafalgar Square. À côté du constat d'un manque de diversité du paysage radiophonique britannique, les différents orateurs développent souvent le même argument. Les journaux privés existent et le public a un large choix de titres, alors que la radio privée n'existe pas et le public n'a d'autre choix que d'écouter la BBC ou des radios privées étrangères. C'est bien la réalité.
This is the only way that we can show this government what we feel about the need for choice for free independent radio. Thanks for the Fox Hunters as well.
Hey, where's my copy, by the way?
No. The first thing I wanted to mention to you was we've just had a newspaper strike, and this morning the newspapers are back. And this morning, for the first time for nearly a week, you've been able to go out and buy the newspaper that you wanted to. You could choose whatever you wanted, whether it was the Sunday Express or the Telegraph or People or whatever you have. And this is the most important point. You could choose your newspaper. Now, can we choose our radio station? They won't let us choose.
Yes! Yes!
Now, there's no difference at all between a radio station and a newspaper, except that the newspaper sends its news out by carrying it by rail. A radio station sends it out by means of radio frequencies. Now, we've had nothing but rubbish from this government. We've worked on them for the past 2.5 years.
Un bus à Impérial commença à sillonner certaines circonscriptions de Londres et du sud-est de l'Angleterre pour mobiliser l'électorat. Des affiches furent collées et des tracts distribués dénonçant le brouillage de Radio Nazi International et appelant à voter pour les conservateurs. Chaque militant était encouragé à démarcher 3 autres personnes par téléphone pour tenter de les rallier à la cause des radios privées, et donc à voter conservateur. De même, il était vivement suggéré de téléphoner au parti travailliste afin de saturer les lignes de leurs standards. Pendant cette campagne, Ronan O'Reilly ne mâcha pas ses mots à l'endroit du Premier ministre britannique, le comparant à Mao Zedong et affirmant que renouveler sa confiance au parti travailliste équivaudra à voter pour un État marxiste. Quelques figures historiques des radios offshore, comme Simon Dee, firent plusieurs apparitions. Sur l'antenne de Radio Nazi, devenue Caroline, les DJ tiennent ouvertement des discours anti-travaillistes et ils passent régulièrement un titre « Who do you think you are kidding, Mr. Wilson ?»
Who do you think you are kidding, Mr. Wilson, if you think three radios now? We are the boys who will stop your little game. We are the boys who will make you think again. So who do you think you are?
C'est Larry Truman, directeur des programmes de la radio, qui a eu l'idée de se servir du générique d'une série humoristique très populaire de la BBC, Das Army, Who Do You Think You Are Kidding Mr. Hitler, était la chanson qui introduisait chaque épisode. Les paroles sont reprises à l'identique, seul le nom de Monsieur Wilson a été substitué à celui de Hitler. Le 16 juin, le Premier ministre Harold Wilson autorisa personnellement l'utilisation de l'émetteur le plus puissant d'Europe, situé à Southend et d'une puissance d'un mégawatt pour brouiller Radio Nazi International. Derrière le brouillage de la fréquence en ondes moyennes, on peut distinguer ce spot appelant à voter pour le Parti conservateur.
What will the results of Thursday's general election mean to you? There are 5.5 million people between the ages of 18 and 25. Vote for the party that believes in your individual freedom. The party that believes in free broadcasting. The party that believes in free enterprise. the party that can sustain your rights as a human being. The Conservative Party believes in these things.
Alors que les sondages donnaient une très légère avance au Parti travailliste, c'est finalement le Conservative Party qui remporta les élections. Certes, le climat social général était tendu, en dehors de cette seule question des radios privées. Mais on peut tout de même se demander si les plus jeunes votants se sont souvenus de leur été 1967, où, le 14 août, presque toutes les radios se sont éteintes les unes après les autres. Il est aujourd'hui admis que la campagne anti-parti travailliste conjointement orchestrée par la Free Radio Association et Radio Nazi International a eu un impact sur le vote. En effet, les circonscriptions qui ont été les plus ciblées par les organisateurs ont majoritairement voté pour le Parti conservateur. On peut observer que face au discours dénonçant le manque d'ouverture du gouvernement en place et le manque de diversité du paysage radiophonique, le gouvernement répondait par un brouillage de plus en plus fort de Radio Nazi, qui avait eu la judicieuse idée de se renommer Radio Caroline pour l'occasion. Le 19 juin, une minute avant 14h, les résultats définitifs tombent. C'est le triomphe à bord du Mebo 2 et sur l'antenne.
And now the right time from Bulova is exactly 2 o'clock. Bulova, who invented Accutron, the electronic tuning fork watch? And here is the news as it happens. Of course, you heard the news flash that in fact the Conservatives have got the 316 seats needed to give them a victory. They got that at about 1:01, so that was a very, very late report indeed, and we're surprised we've got it in, just squeezed it in as quickly as we did. So let's see, how do we go? After driving during the night, Mr. Wilson and Mrs. Wilson arrived at number 10 Downing Street at 7 this morning. Conservative leader Edward Heath was greeted with cheers and nearly mobbed by young Conservatives outside Conservative headquarters in London after driving in from his constituency of Bexley. The Liberals have lost 3 candidates out of 13 already at the time of this report. The lowest majority polls so far was at Ipswich, where Dingle Foot, Conservative, retained the seat by only a majority of 13 votes.
Pour l'équipe de Radio Nazi International, ce n'est pas uniquement la victoire du Parti conservateur, c'est leur victoire. Jamais une radio offshore ne s'était autant engagée politiquement.
Do wah diddy dum diddy do, that's all I've got to say. Yay, no time for losers on the Geeters show. We have won, baby. We have absolutely, entirely, physically, and everything, and morally, won. So that's what's going to happen with Caroline. We will remain right here, entertaining you. Y-O-U. Want to know why, baby?
Beautiful.
Oh, everything is so beautiful.
In its own way.
We have done it.
Like a starry summer night.
À 12h30 le 20 juin, Radio Nazi International reprend son nom avec le sentiment du devoir accompli. Pourtant, malgré l'alternance politique et les promesses du Parti conservateur sur une possibilité d'attribution de fréquences radio à des entreprises privées, le brouillage se poursuit. Le soutien de Radio Nazi International et des supporters de la radio commerciale privée apportée au Parti conservateur n'a donc pas été payé en retour. Meister et Bollier, les deux patrons, en sont donc pour leurs frais. Constatant la persistance du brouillage, ils positionnent leur émetteur sur une autre fréquence. Mais le brouilleur du GPO les suit. Au début du mois de juillet, le gouvernement norvégien met lui aussi en place un brouillage, mais cette fois, c'est la fréquence en ondes courtes qui est visée, trop proche de la fréquence internationale de détresse. La station déplace là aussi sa fréquence d'émission. Échec du programme pirate télé Caroline. Le Monde, 3 juillet 1970. Une chaîne de télévision pirate devait être lancée mercredi en Angleterre, à 17h GMT, par le célèbre Ronan O'Reilly, l'homme qui inventa déjà Radio Caroline. Cette quatrième chaîne, qui porte le nom de Caroline Télé, devait émettre en plein ciel, à 6500 mètres d'altitude d'un super constellation transformé en studio de télévision volant, sur une longueur d'onde gardée secrète jusqu'au dernier moment, afin d'éviter les brouillages des services des postes et télécommunications. Mais rien ne s'est produit, et les stations d'écoute officielles n'ont rien capté. M. O'Reilly joue doublement de malheur. Il espérait en effet que le nouveau gouvernement conservateur, qui a promis dans son programme électoral la mise en place de stations de radio commerciales régionales concurrentes de la BBC, ne tenterait pas de contrarier cette nouvelle expérience pirate. Mais on fait savoir de sources officielles que le gouvernement britannique continue de considérer de telles initiatives comme illégales. De leur côté, les responsables de Radio North Sea International rencontrèrent le nouveau ministre des Postes et Télécommunications, mais ressortirent de l'entretien sans avoir obtenu la moindre avancée. De fait, le 14 juillet, Christopher Chataway annonce au Parlement que le brouillage du signal de Radio North Sea se poursuivra. Pour les responsables de la station, c'est la douche froide, mais surtout, Radio North Sea n'a aucune validité commerciale. Depuis des semaines, les programmes sont brouillés et les changements de fréquence furent nombreux. Constatant que le nouveau gouvernement ne changera finalement pas d'attitude vis-à-vis des entreprises privées de radiodiffusion, les responsables de la station décident de retourner au large des côtes hollandaises. Le 23 juillet à 10h55, les programmes sont interrompus et le Mebo 2 lève l'ancre pour rejoindre Scheveningen. Les émissions reprennent le 24 juillet à 7h, sans signal de brouillage. Le gouvernement britannique a pour l'instant réussi à éloigner le Mebo 2 de ses côtes.
Following control of our transmitter, this is Radio North Sea International. Return to the airwaves of 244 meters, 1230 kilocycles in the medium wave band.
Le 27 juillet, le ministère néerlandais des télécommunications déplore des interférences entre l'émetteur en ondes moyennes de Radio North Sea International sur la fréquence 244 et Hilversum 3. Trois jours plus tard, c'est l'émetteur FM qui est accusé de brouiller les communications radio de la compagnie de bus néerlandaise. Pour la énième fois, toutes les transmissions depuis le Mebo 2 sont arrêtées le 31 juillet. Le 3 août, la station revient sur les ondes, mais le 17, une tempête endommage son émetteur en ondes moyennes. Les transmissions en ondes moyennes reprennent 5 jours plus tard, mais s'accompagnent de nouveaux changements de fréquence.
To Holland yesterday, and it was very nice, and I won't say any more about that. But somebody's going to say something now, okay?
À terre, la situation de Radio North Sea n'est guère plus stable. Erwin Meister et Edwin Bollier songent sérieusement à lancer un programme en néerlandais. À la fois parce que le Mebo 2 est revenu près des côtes hollandaises, mais aussi parce que la radio leur a pour l'instant coûté beaucoup d'argent et n'a presque rien rapporté. Ainsi, parallèlement à un programme anglais, des émissions en néerlandais pourraient être un atout commercial. Dans cette optique, Meister et Bollier ont convié un homme d'affaires, Peter Erema, qui a investi 50 000 livres dans le projet. Peter Erema va ensuite se tourner vers un certain Kees Manders, qu'il va nommer responsable de la publicité du futur programme. Manders est propriétaire d'une discothèque à Amsterdam et a brièvement travaillé pour Radio Veronica en 1959. Le problème est que Meister et Bollier ne sont pas au courant de l'accord entre Erema et Manders. Lorsque ce dernier réclame 3000 livres de commission au titre du chiffre d'affaires publicitaire qu'il a déjà généré, les deux Suisses refusent de payer, car selon eux, Manders n'est pas un salarié de leur société. La justice néerlandaise leur donne raison, mais Manders ne va pas en rester là. Et ce qui va se passer le 29 août autour du Mebo 2 n'est pas sans rappeler les événements de juin 1966 sur le fort de Shivering Sound. En fin de matinée, deux bateaux appartenant à Peter Erema prennent la mer, le Husky et le Viking. Vers 13h30, ils abordent le Mebo 2 et l'un des passagers demande à monter à bord. Le capitaine refuse et les DJ réussissent à se barricader à l'intérieur du studio. Ils perçoivent qu'ils sont peut-être victimes d'un acte de piraterie maritime. À 13h40, Andy Archer interrompt les programmes pour demander de l'aide. Il sollicite les auditeurs pour qu'ils contactent la direction de la station à Zurich, car ils ne comprennent pas encore ce qui se passe.
We don't normally let such happenings interfere with our general programming, but if anybody is listening, perhaps they could telephone our head office, which is in Zurich, and the number is 542447. The number is Zurich 542447 and the dialing code for Zurich is 051. That's the number you have to ask for. But the telephone number itself is in Zurich. It's 542447. Or if Larry or anybody's listening at the Grand Hotel, perhaps they could try and make contact with us. But the telephone number in Zurich is 542447. It would be appreciated if somebody could speak in German. 542447. Now back to the music.
Un peu plus tard, l'un des occupants du Husky révèle son identité, Case Manders. Il demande à monter à bord pour parler au capitaine. Il lui déclare qu'il est le nouveau propriétaire du Mebo 2 et que le navire doit être remorqué. Le capitaine refuse et tente de joindre la Terre par une liaison spéciale, mais celle-ci ne fonctionne pas. Le navire ravitailleur de Radio North Sea, quant à lui, ne peut intervenir, car il a été saisi sur dénonciation quelques instants plus tôt dans un port hollandais. Le Mebo 2 est donc totalement isolé. Andy Archer et Spangle Muldoon continuent à lancer des appels à l'aide et sollicitent aussi les bateaux sur zone. Les minutes passent et les occupants des deux navires, clairement plus nombreux, deviennent de plus en plus menaçants.
That's Trapeza and the giant is dead, hooray. It's now 12 and a half minutes after 2 o'clock, and once more we will inform you of just exactly what is happening out here on the high seas this afternoon. At 25 minutes to two, a tugboat came alongside with a small launch. The tugboat is still circling us, and the launch is tied up alongside the Mebo 2 at the moment. Aboard the small launch when it came alongside was a man by the name of Mr. Case Manders, and he claims that the radio ship belongs to him, but...
Yeah, we have a special message, Andy. Yeah. We understand that the tug that's outside is called the Husky from Willemstad. It's owned by Mr. Ehrmann. That's the tug Husky from Willemstad. It's owned by Mr. Ehrmann. The launch is called Viking. It's registered in Panama. It's also owned by Mr. Ehrmann, who is on board the launch. That's the launch Viking, registered in Panama and owned by Mr. Ehrmann.
Well, there you go. But the situation still is at the moment that this tug came alongside, and also, well, it's still circling us at the moment, but the launch came alongside with a Mr. Case Manders on board. Now, Mr. Manders claims that Radio North Sea belongs to him, when, as a matter of fact, as you and I know, it belongs to two Swiss businessmen by the name of Borlier and Meister.
Les assaillants menacent alors d'arroser l'antenne avec un canon à eau. Mais le DJ Carl Mitchell eut la présence d'esprit de les informer du risque de court-circuit fatal d'un tel acte. Ils entreprirent alors de couper la chaîne d'ancrage du Mebo 2 et c'est à ce moment que survint l'Eurotrip, une embarcation qui allait mettre fin à cet épisode qui aurait pu être dramatique. À son bord se trouvaient l'agent maritime, Erwin Meister, le directeur de la station, et Larry Trunnen, le directeur des programmes. D'autres bateaux ne tardèrent pas à arriver, dont l'un envoyé par Radio Veronica qui n'était pas très loin. Un peu avant 16h, Larry Truman prit la parole pour remercier du soutien des auditeurs et des marins. La confrontation aura duré presque 2 heures.
According to the free, it's all right now. That's Johnson number 16 in the top 30 of R&I. And we stand by for a word from the managing director of Radio North Sea International.
Ladies and gentlemen, I'm very sorry for the inconvenience today that you've had, but unfortunately we've had problems out here. And I'm glad the disc jockeys have done their part in keeping you informed, and that's what R&I plans to do, is keep you informed of everything that goes on out here. I am out here right now with the owner of Radio North Sea International from Mebo Limited in Zurich, Switzerland. And we hope we don't have too many problems. At the moment, the ships have pulled off, but we are sure, as they have told us, that they are coming back. They have brought a child and a woman on one of the ships to kind of deter us from doing anything to them, although it is our intention, as the owner of the station has said to the captain of the trip that brought us out here, only the agent from the shipping company in Holland, myself, and the owner, Mr. Erwin Meister, has come out to the Mebo. Many people wanted to come out to help us. We told them they could not come on our ship. We are not interested in any fights. We are not interested in any deaths at sea. This station is not around to make trouble. This station is around to provide you with musical entertainment.
C'était les DJ de la haute mer, 22e épisode.
Mr. Irwin Meister and myself, Larry Tremaine, to come out here to the Meebo 2 to see what the problem was. We have contacted our attorneys, our solicitors in Hollywood.